Les sentiers du monde. Une émission proposée par Nadia et Kadri Aga.
Réalisation Medjid Fares.
Bonsoir à tous. Kadri Aga, en annonçant tout à l'heure le pays où nous vous suivrons ce soir, j'ai pensé que chacun y trouvera son compte, enfin, car il recèle ce que tout le monde est susceptible de rechercher, enfin, je le pense. Alors nous partons ?
Nous partons au Venezuela, le Venezuela qui est appelé le pays de l'Eldorado. Le Venezuela est un fait certain, c'est l'enfant chéri, l'enfant gâté de l'Amérique latine.
Alors au moins, gâté oui. Par quoi ?
Eh bien, il est d'abord gâté par la nature, car il connaît la beauté sous toutes ses formes, la beauté et la diversité. Il est doté de pics andins, d'un côté donc la montagne, la chaîne andine, la cordillère des Andes, une partie. De côtes caraïbes, les fameuses côtes caraïbes, à faire rêver sur un dépliant touristique. Et tout ce qui peut suggérer les belles vacances, les vacances idylliques. De vastes plaines herbeuses, d'un fleuve gigantesque qui est l'Orénoque, et de forêts amazoniennes impénétrables. Donc il a pratiquement tout sur ce plan-là.
Oui, alors il y en a pour les baigneurs, les promeneurs
pour
et
tout.
Les aventuriers aussi.
Pour tout, pour tout. Il est aussi gâté par les ressources du sol, car il est par excellence un pays riche. C'est la terre du pétrole, autour du prestigieux lac de Maracaibo. Celle des grosses réserves mondiales, si vous voulez, la terre où il y a pratiquement une des plus grosses réserves d'hydrocarbures au monde.
Au monde ?
Oui. Ces réserves sont insérées dans les innombrables bras du delta de l'Orénoque. Le revenu par tête d'habitant est le plus élevé de l'Amérique latine. De ce fait, c'est un pays qui compte. Il compte politiquement. Il est donc gâté sur le plan politique aussi. Car si l'Amérique latine est symbolisée par les dictatures, donc les dictateurs de ces généraux caudillo, donc ces généraux moustachus qui gouvernent tous les pays d'Amérique latine, le Venezuela est le pays des libertés politiques, du pluralisme et de la liberté de la presse et de l'opinion, ce qui n'est pas valable ailleurs, ce qui n'existe pas pratiquement dans les autres pays d'Amérique latine, s'entend. Alors, sur le plan diplomatique, c'est une nation clé. Il est membre fondateur de l'OPEP, l'Organisation des pays producteurs de pétrole. Il est membre actif du Pacte des pays andins, donc l'OEA.
C'est quoi ?
C'est l'organisation des États qui sont autour de la cordillère des Andes, des États andins, l'organisation des États andins. Donc ces États andins, vous avez le Pérou, la Colombie, la Bolivie, le Venezuela. Donc c'est cette organisation. Et de ce fait, c'est très important dans ce continent, surtout le continent américain, parce qu'il y a l'Organisation des États d'Amérique latine et une organisation régionale qui est l'Organisation des États andins, qui sont très importantes. C'est un interlocuteur international. C'est le pays, de ce fait, je comprends qu'on l'appelle le pays de l'Eldorado. L'Eldorado, si vous voulez, c'est quand les conquistadors sont venus, les conquistadors espagnols, quand ils ont pénétré le Venezuela, ils étaient à la recherche d'un grand prince dont ils avaient entendu parler. Et ce grand prince s'appelait Eldorado. Eldorado qui veut dire le doré, celui qui porte de l'or. Qui, selon la légende, marchait couvert d'or. Un homme qui se faisait donc... d'une certaine manière, redoré chaque matin. Si les conquistadors n'ont pas trouvé ce prince, Eldorado, les descendants de ces conquistadors, ceux qui se sont établis, qui ont créé cet État, eux ont découvert, il y a à peu près 50 ans, qu'ils habitaient bien le pays de ce prince mythique, qui symbolisait la richesse grâce à la découverte du pétrole.
Oui, mais c'était un mythe, justement.
Oui et non, c'est un mythe, c'est-à-dire que...
Enfin, le prince en question.
Du fait qu'on ne l'a jamais vu.
Oui.
On a rapporté que ce prince... Je vous dirais non, parce qu'il ne faut pas oublier que les Incas, c'est un prince Inca, les Incas adoraient le soleil et que l'or symbolisait la lumière du soleil, la lumière solaire. Alors, ça ne peut pas être un mythe. On pourrait croire que c'était un prêtre, un jeune prince, qui faisait fonction de prêtre et qui, s'induisait d'or pour approcher le dieu solaire.
Ouais.
De toute façon, dans la conscience collective, Eldorado symbolise la richesse. Mmh. Or, pour les Vénézuéliens, l'Eldorado, c'est le pétrole. Cependant, le pétrole ne fait pas le bonheur de tous les Vénézuéliens, comme dans, bien sûr, beaucoup de pays. Caracas, qui reflète l'histoire du boom pétrolier, reflète aussi ses revers. Il y a, le lait de Caracas, ça se remarque quand un étranger arrive dans cette capitale, qui est Caracas, donc je signale le passage, c'est la capitale du Venezuela. Le lait y a pris, d'une certaine manière aussi, des dimensions du baroque, parce que le lait, contrastant avec ces grands buildings, ce quartier des affaires, ce quartier où tout se sent sans la nouveauté et la richesse, eh bien, ce lait prend une dimension quasiment baroque, étant donné que c'est coloré, c'est vraiment une palette de couleurs assez, assez chatoyante, si vous voulez, je dirais, si je peux me permettre l'expérience. Bon, à part l'ancien centre colonial qui s'est réduit à une peau de chagrin parce que tout a été détruit, tout est gigantesque. Il y a des immenses autopistas qui sont des autoroutes avec leurs échangeurs qui ressemblent à d'immenses pieuvres de grandes araignées. Enfin, les gratte-ciels, buildings qui sont ultra-modernes et qui se groupent autour de centres commerciaux qui sont tout aussi rutilants de luxe. Les quartiers, par exemple, il y a le quartier del Silencio, qui est le quartier diplomatique, le quartier des ministères, qui a été préparé, donc arrangé par les précédents caudillos, ceux qui ont gouverné ce pays. Tous ces quartiers-là qui semblent être tracés au cordeau, donc bien alignés, tout ça, et qui se reflètent dans de grands bassins d'eau avec des jets d'eau. C'est vrai, c'est beau, c'est très très beau. Eh bien, tout ceci contraste avec ce qu'on peut appeler donc les ranchitos. Les ranchitos, ce sont des quartiers, les bidonvilles, et qui sont là pour attester que, d'un côté, il y a des gens à qui la fortune, donc la réussite du pétrole, a profité, et à d'autres, pas. Et si vous voulez, il y a aussi les quartiers, il y a des quartiers qui sont d'une beauté assez exceptionnelle. Ce sont les urbanizaciones, qui sont donc des quartiers modernes, où il y a des résidences de luxe. Il a fallu arraser la montagne, la colline, la villa, une colline qui s'appelle la villa, qu'il a fallu pratiquement la raser, l'éliminer une partie d'elle pour établir ces résidences de luxe pour donc les gens parvenus, les gens riches.
Donc
les
tout gens est neuf.
Ah oui, oui. Et tout est neuf et tout est beau. Même le lait est beau. Même le lait, c'est un peu paradoxal, mais le lait, il prend un caractère de beau. Eh bien, Caracas, qui est au confluent de quatre rivières, avait trouvé, donc, dès sa fondation, en 1567, une vocation de capitale, une vocation de grande capitale. Mais, bien sûr, il y a les ranchitos. Les ranchitos qui sont des bidonvilles accrochés aux collines qui entourent donc la ville, surtout ces collines, les grandes collines qui entourent la ville, telles une ceinture de misère, sont là pour jurer de cette opposition, pour jurer de cette fortune, de cette richesse. Et bien, dans ces ranchitos, il y a à peu près la moitié de la population de Caracas, qui compte 2,5 millions. Il y a plus d'un million de personnes qui vivent dans ces ranchitos.
Et c'est beaucoup.
Ah oui, oui, c'est pour ça justement que je vous dis, le pétrole ne profite pas à tout le monde.
Oui,
oui, la bonne moitié de la population de Caracas vit dans ces bidonvilles. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces bidonvilles? Ce sont des gens qui ont été attirés par le mirage pétrolier, le mirage de la fortune, le mirage de ce boom économique, toute cette richesse. Eh bien, vous avez des gens qui viennent, qui sont des métis, des Indiens, qui viennent soit de régions indiennes, donc des régions précises où il y avait des populations bien inscrites depuis des siècles. Il y avait des gens qui sont venus là, des Indiens. Vous avez... Et la plupart viennent aussi de la Colombie voisine, qui est juste là. Vous avez des Noirs. Oui, des immigrants et beaucoup d'immigrants clandestins. Oui, beaucoup d'immigrants clandestins. Des Noirs qui sont descendants d'anciens esclaves, parce que la région, pas oublier que la Grenade est juste en face, les Caraïbes, il y a une forte implantation de Noirs. L'esclavage y a trouvé dans toute cette région un débouché extraordinaire du temps de l'esclavage. Mmh. Ouais. Vous avez la Jamaïque, vous avez toutes ces îles qui sont dans les environs et qui sont des endroits à peuplement d'esclaves, où il y a eu beaucoup. Alors vous avez ces Noirs qui sont d'esclaves. Et tous ces gens constituent la majorité des laissés pour compte de ceux qui n'ont pas pu suivre cet essor et qui essaient de vivoter en essayant de ramasser bien sûr quelques miettes ou du travail. Du travail, il y en a, de toute façon. Mais il y a aussi bon nombre de chômeurs. Beaucoup de chômeurs dans cette capitale parce que, bon, ben, ça a bouleversé toutes les données économiques. Bien que l'État s'est soucié, l'État a fait des efforts particuliers pour essayer de, si vous voulez, de pallier cette situation. Eh bien, ça ne marche pas. Et, mais il y a aussi, dans ces ranchitos, on voit des gens de classe moyenne, des gens qui viennent avec... costume, cravate, donc complet veston, trois pièces, avec leur attaché caisse, rentrer, habiter là, parce qu'il y a...
Mais il y a la crise du logement.
Il y a la crise du logement, enfin c'est un peu paradoxal, parce qu'il y a des logements immenses pour très peu de personnes, et beaucoup de personnes qui sont entassées dans des endroits. Mais les logements sont très chers à accueillir. Alors l'argent, si vous voulez, l'argent du pétrole a fait de Caracas une des villes les plus chers du monde. Alors, les loyers sont horriblement chers. La vie est très chère. Ça, c'est le pétrole. Et une partie, donc, des classes moyennes n'a pu suivre ce rythme.
Oui,
c'est pas possible. Oui, oui. C'était pas possible. Alors, et tous ces gens, ceux qui n'ont pas suivi, vivent dans ces bidonvilles, dans ces ranchitos, qui sont là autour de la ville, qui ceinturent cette ville, pratiquement. Cependant, le bidonville est partout en Amérique latine. Dans toutes les capitales d'Amérique latine, vous avez des bidonvilles. Mais il faudrait comprendre que le bidonville est à l'Amérique latine, aux grandes villes d'Amérique latine, ce que sont les banlieues des grandes villes européennes. Voilà. Ces bidonvilles se sont mis à la lisière de ces villes et reçoivent donc ces populations. Ce sont devenus des cités dortoirs où il fallait parer au plus pressé.
Oui, on n'imagine pas une ville d'Amérique latine sans bidonville, c'est vrai.
Impossible. Vous avez les favelas à Rio, un peu partout au Bahia. Vous avez autour de Rio de Janeiro, donc Rio, vous avez autour de Buenos Aires. Toutes les grandes capitales d'Amérique latine ont leur bidonville et qui sont célèbres. Alors Caracas est plus que toute autre capitale du sud de l'Amérique. Elle, malgré ses bidonvilles, avec tout ce luxe, vit à l'heure américaine. L'Amérique au nord, donc ce grand voisin, qui est un pôle d'attraction, qui est un phare. Alors, le Venezuela, pour vous citer ceci, est le plus grand consommateur de whisky au monde. C'est l'importation de whisky, de scotch Et c'est effarant, des navires entiers. Parce qu'on vit, c'est un must. Il y a toute une série de musts que la position sociale impose.
Mais alors, les musts, qu'est-ce que vous voulez dire? Le les plus, must... encore plus
Non, le must, c'est ce qui vous oblige. Donc ce qu'on appelle, c'est un mot un peu à la mode qui est utilisé un peu partout. Le must, c'est ce qu'il faut pour être bien, pour paraître dans... pour occuper une bonne position sociale. Mmh. Alors, le fast et les réceptions relèvent dans cette ville du devoir social. Les journaux, c'est très simple, on comprend, vous prenez un journal à Caracas, eh bien, il y a beaucoup de pages qui sont consacrées au bottin mondain. Alors, c'est les fiançailles d'une telle, ce sont les parties offertes par madame une telle ou monsieur un tel. Et tout ceci est lu et suivi, c'est très important, ça fait partie de la façon de vivre de ces gens, bien sûr, qui sont parvenus, qui sont riches.
Richesse oblige, donc.
Richesse oblige, d'une certaine manière. C'est le Gotha, donc la haute classe qui profite de tout ceci. Les habitants de Caracas, par ailleurs, se gavent, eux, de télévision américaine. Bien que la télévision vénézuélienne est une très bonne télévision, mais la télévision américaine est juste captée, elle est juste en face. Mais ils prennent toutes les chaînes. Il y a une chaîne.
Ah, ils captent. Ah
oui, ils captent.
Ils ne reçoivent pas de programme américain.
Non, ils les captent. Ils les captent facilement, directement. Oui, oui. Il y a même des organisations qui se chargent de rediffuser certains programmes. Il y a une chaîne américaine qui s'appelle le Home Box Office qui passe des films sans arrêt. Eh bien, cette chaîne américaine est la plus prisée au Venezuela. Tout est à l'heure américaine.
Arrean las nubes, su manso coche, por los caminos del cielo, y mi esperanza, alzando el vuelo, va tras de ti a lo lejos. Arrean las nubes, su manso coche, por los caminos del cielo, y mi esperanza, alzando el vuelo, va tras de ti a lo lejos.
La capitale n'est pas tant, d'une certaine manière, le haut lieu de la vie intellectuelle du Venezuela que la réplique de la Miami, la ville de Miami de Floride, donc la capitale de la Floride, la Miami américaine. Donc, c'est le reflet exact. On veut vivre comme les gens de Miami, à la Floride. La ville qui, il y a à peu près 20 ans, se distinguait de La Guaira. La Guaira, c'est le port, c'est ce petit port, enfin, qui est très peu distant, enfin, qui était loin, c'était le port de Caracas. Eh bien, il y avait une grande distance qui les séparait. Eh bien, La Guaira a été inclus donc dans la ville. La ville est allée jusqu'à La Guaira. Tous les terrains ont été occupés. Eh bien, et La Guaira est devenue un des quartiers donc de la ville. Tellement ça s'est étendu. Alors, et ça vous donne des buildings, de nouveaux buildings, des rues très droites à l'américaine justement, qui semblent être tracées parfaitement au cours d'eau. Tout est bien disposé. En Amérique, c'est des rues numérotées. Oui. Là, c'est des rues à noms, avec des noms, donc des noms de héros et des avenues, notamment la plus importante, le quartier de Bolivar, qui est le héros national. Et vous avez des centres qui sont élevés, des centres commerciaux, des centres d'affaires, d'immenses buildings. On a l'impression d'être effectivement aux États-Unis. Le centre Bolivar, vous avez comme ça le centre Altamira, qui sont des particulier, donc, sans parler du silencio donc, que j'ai évoqué tantôt, qui est le quartier politique, donc le quartier des ministères des affaires, des différents centres comme ça, qui reflètent justement cette extension, cette richesse, la richesse qui s'est faite il y a 50 ans, qui est arrivée soudainement il y a 50 ans. Et donc, cette capitale compte 2,5 millions d'habitants. 2,5 millions, plus de la moitié, presque plus de la moitié, donc près d'un million, 1,5 million, vit difficilement, un bon million vit à l'aise, très à l'aise. Et elle est située donc au pied de la villa, qui est une colline qui arrête donc un peu les courants, les alizés, les vents, et elle jouit d'un climat idéal, vraiment un climat idéal. C'est une très très belle ville. Elle est dédaignée par les habitants à l'heure du week-end, parce que tout le monde part. Alors, tout le monde part, ils préfèrent s'en aller par choc contre par choc. C'est effarant, surtout les week-ends. Et des files pour faire pratiquement 20 km, il vous faut mettre une heure. Des files de gens qui roulent à une vitesse, vraiment, vitesse d'escargot, pour aller sur la frange côtière, sur les îles. Et alors, vous avez les îles hollandaises d'un côté, qui sont les îles dites sous le vent, dont notamment la plus importante, qui est Curaçao, Curaçao, qui est la ville qui a donné le nom à cet alcool, l'alcool de Curaçao. Vous avez Aruba, vous avez Bonaire, ou en espagnol c'est Buenos Aires, pas Buenos Aires, mais Buenos Aires. Alors, ce sont donc les îles sous le vent, et il y a des îles du côté du vent qui sont, en anglais les Américains appellent ça Windward, donc du côté Windward Island, qui sont Santa Lucia, donc Saint-Vincent, Grenade, et bien toute la bourgeoisie caracoyenne va dans ces îles ou alors sur les plages.
Mais on imagine mal les habitants d'une ville sud-américaine allant en week-end, comme vous venez de le dire, oui. Pare-choc contre pare-choc.
Exactement.
On voit ça plutôt en Europe, ou je ne sais pas, mais oui. Aux États-Unis aussi, mais en Amérique du Sud, c'est très inattendu.
C'est surprenant, parce que justement, Caracas, je vous ai dit, essaie d'imiter l'Amérique, à la mode américaine. Les côtes, d'ailleurs, elles sont très très belles, je comprends qu'ils veuillent y aller là. Vous savez, le Venezuela possède 2700 kilomètres de côtes splendides sur la mer, soit des Caraïbes ou sur l'Atlantique. Et le relief de ces côtes est somptueux, avec des interminables plages de sable fin, des cocoteraies immenses, donc des ports et des criques qui attirent les caraqueños, donc les gens de Caracas, caraqueños, et les touristes, beaucoup de touristes qui viennent de partout, parce que vraiment, le littoral est splendide. Il faut aussi rappeler donc que Caracas est la ville de Simon Bolivar. Simon Bolivar, qui est un natif de Caracas, qui a donné l'indépendance à son pays. Dès 1810, il a organisé le soulèvement contre les Espagnols. Et lorsque le pays fut indépendant, il a gouverné en 1919 la République de la Grande Colombie. Alors, la Grande Colombie était constituée donc du Venezuela et de la Nouvelle-Grenade, qui est l'actuelle Colombie. On appelait ça la Nouvelle-Grenade. Il fonda en 1924 un nouvel État, d'ailleurs, qui s'appelait le Haut-Pérou, ou alors la Bolivie, donc de son nom Bolivar, Bolivie, il y a bien son nom. Et petit à petit, on a commencé à douter un peu de sa volonté patriotique, de la recherche de l'autonomie de ces pays. Et on l'a accusé de dictature et donc il a abdiqué au moment d'unir en une confédération des États latins de l'Amérique. Et c'était durant le congrès, donc ça s'est fait durant le congrès de Panama, le fameux congrès de Panama. Le Venezuela se sépara plus tard donc de la Nouvelle-Grenade, qui est la Colombie, l'actuelle Colombie, en 1839. Il avait été donc jusque-là, jusqu'à l'indépendance, une province espagnole depuis 1547, au moment où les Espagnols l'ont conquis. Okay. Alors, il avait été gêné après son indépendance, après que Bolivar lui ait donné une stature politique donc d'État indépendant. Il a été gêné dans son essor économique par les différents dictateurs qui se sont succédés. Il y en a eu beaucoup. Et aussi par l'instabilité des gouvernements. Donc c'était une politique où il y avait de temps en temps des soulèvements, on sortait dans la rue, on tirait sur les gens. Tout le monde a vu ces clichés dans le cinéma américain, un peu partout. Bon, maintenant, le cinéma italien a repris ceci à son compte. Eh bien, c'était ça. Jusqu'à tout ceci, donc jusqu'à la découverte du pétrole, et aussi avec la venue du président Juan Vicente Gómez, qui a été le premier à donner au pays sa prospérité et son une organisation démocratique. C'est lui qui a instauré les libertés démocratiques pratiquement dans ce pays.
Et enfin, le pétrole, alors comment a commencé son extraction ?
Eh bien, c'est tombé comme ça. On a trouvé, si vous voulez, la manne du pétrole est arrivée. Si la manne du pétrole est arrivée, elle n'est arrivée en un endroit précis, à Maracaibo. Maracaibo, c'est la ville qui se situe à l'entrée du lac, du même nom, le lac de Maracaibo. Mmh. C'est là que a commencé cette extraction. pratiquement à Maracaibo. Et Maracaibo, c'est actuellement, avec la manne du pétrole, la seconde ville du Venezuela. La ville fut jadis un tout petit port, un village à la limite. Il y avait à peine une vingtaine de milliers d'habitants, 23 000 peut-être, oui. Et il y en a actuellement près de 800 000, 700 000. Alors c'est quelque chose. Et ça, c'est en espace de 50 ans. De 50 ans, donc ça va très vite. Elle domine, je vous ai dit, le lac qui porte le même nom et qui est justement qui est lui-même une zone pétrolière, pétrolifère. C'est une vaste dépression, ce lac est une vaste dépression entre deux chaînes andines, je vous ai dit, qui font à peu près, tout ce lac donne à peu près l'équivalent, il est très grand, au moins une vingtaine de fois, le lac Léman, donc pour vous donner une idée.
Le lac Léman, en Suisse.
Oui, donc tellement c'est très grand. Alors, c'est un climat, dans cette région, c'est un climat torride et humide, à la fois, où, à l'époque, avant le pétrole, où sévissait, il y avait la malaria. Il y avait le paludisme, et surtout la fièvre jaune. Ça faisait des ravages. Aujourd'hui, bien sûr, avec la richesse, c'est une autre fièvre, c'est la fièvre noire, la fièvre du pétrole, la fièvre de l'argent, qui agite la région. Il y a au moins une douzaine de raffineries. Il y a 12 raffineries, il y a un immense complexe pétrochimique et un immense terminal où vont les bateaux, les gros tankers viennent se ravitailler. C'est cet endroit s'appelle l'endroit où se fait, qui est la zone industrielle, la zone du pétrole, la zone des raffineries, c'est la salina. La salina, donc, vous voyez tout de suite l'étymologie latine, c'est les salines. Et c'est une région justement parce que toute cette partie du lac est faite de salines. Parce que derrière le lac, derrière cette partie, la partie qui domine donc la cordillère des Andes, c'est un désert. Il y a un grand désert. Alors, et là, c'est la salina qui est devenue ce truc désertique salé, ce marais salant est devenu donc ce qui a été la fortune, ce qui a fait la fortune du Venezuela. C'est donc le pétrole qui a fait donc la fortune, mais il a fait aussi la démocratie. Les gens étaient riches, ils n'avaient pas le temps d'aller s'entretuer et s'occuper de rentabiliser de cette richesse. Alors c'est comme ça. La démocratie et la deuxième révolution industrielle, parce que donc il y a eu à chaque fois des plans, comme si on appelait par là. Donc ici en Algérie, il y a des plans quinquennaux. Là-bas, il y a eu des révolutions, on appelait ça des révolutions industrielles. La deuxième révolution industrielle a fait de cet État, du Venezuela, une puissance prospère et éclairée, parce que, bon, à partir de ce moment-là, on a toléré donc le pluralisme, on a toléré que l'adversaire politique pouvait avoir son opinion et pouvait venir à votre place. Alors, c'est avant, donc, vivait le Venezuela, avant tout ceci, il vivait au même rythme que ses voisins. Il vivait au même rythme. Et après l'indépendance qui a été conquise, donc, par Simon Bolivar, qui a été soutenu par les terratenientes, donc, c'est les propriétaires terriens, les terratenientes, qui avaient une mentalité d'esclavagiste, hein, quand ils ont fait, parce qu'ils employaient beaucoup de Noirs, ils employaient beaucoup d'Indiens et tout sur la propriété.
Oui, c'était quasiment
des très grandes propriétés, des haciendas, où les gens n'avaient que de quoi manger et travailler. C'est une forme d'esclavagisme. Alors, ils ont placé cela après donc la disparition de Bolivar, après que Bolivar, ils ont placé jusqu'aux années 20 pratiquement. Des caudillos qui les représentaient, qui administraient pratiquement le pays comme eux administraient leur hacienda. Donc le pays était une véritable hacienda. C'était tenu par une main de fer. Jusqu'à donc ces haciendas étaient, et ça c'était justement avant le pétrole, c'est ce qui faisait l'économie du pays. C'était l'agriculture. Toute l'économie était liée aux llanos. Les llanos, ce sont des grandes plaines herbeuses qui sont qui sont très belles d'ailleurs, terres magnifiques.
Et l'agriculture riches. À ce moment-là avait une certaine importance ?
Oui, bon, une importance relative. Alors, la vie dans ces llanos était organisée en deux saisons, tout simplement. Il y avait la saison des pluies et la saison de la sécheresse, pas plus.
Alors on savait à quoi s'en tenir.
Et c'est ça, il y avait 6 mois de déluge et 6 mois donc de temps sec et de soleil. Alors, durant les pluies, les haciendas deviennent des déserts de boue. Alors, le llanero, qui est le travailleur donc, de llanos, donc, qui va sur ces plaines, le llanero, qui est un berger, donc un conducteur de bétail, lui restait chez lui pour effectuer toutes sortes de travaux pendant cette période. Alors, il réparait les selles, donc les cuirs, il tressait des cordelettes, il préparait ses lassos et tout. Et dès que les pluies cessaient, alors à ce moment-là, il effectuait la transhumance du bétail vers des zones irriguées, des zones herbeuses.
Elles étaient irriguées, artificiellement ou naturellement ?
Naturellement, pas
artificiellement, oui,
les pluies et puis la concentration. Alors, d'ailleurs, une fois l'an, et pendant cette période, une fois l'an, il y a une région qui s'appelle Montecal, un endroit qui s'appelle Montecal, il y avait la fête justement du bétail, et il y avait une course qui se tenait, c'est une course de taureau coléado, donc avec un grand coup, si vous voulez, on lâchait un taureau, sur une piste de 500 mètres et des cavaliers le poursuivent. Donc ça se fait jusqu'à présent. Maintenant, c'est devenu un grand sport dans cette région. Et il fallait l'attraper, le défi, donc, c'était de l'attraper par la queue et de faire choir le taureau, un taureau puissant.
C'était difficile.
C'est très difficile. C'est quelque chose qui tient pratiquement vraiment de la bonne prouesse physique et sportive. Oui. Alors, c'est durant ces périodes, donc, que tout ceci peut s'organiser, la période de la sécheresse. Alors, bon, les llanos, à cette période-là, à ce moment-là, les llanos deviennent des réserves aussi, parce qu'il fait très beau, donc l'herbe est montée, il fait très beau. Et il y a des endroits qui sont encore mouillés, trempés.
Oui, surtout après la pluie.
Exactement, ça devient des réserves d'oiseaux fantastiques. Oui. Alors, des oiseaux qui viennent justement de l'Amazonie, toute proche, parce qu'il y a une très grande concentration, il est devenu parc national, protégé. Et il y a d'ailleurs à ce moment aussi un truc assez amusant, il y a le plus gros rongeur du monde, qui est un rat de la taille d'un sanglier, c'est le capaillé. Ne vous effrayez pas, les capaillés sont très inoffensifs.
Heureusement.
Ils sont très inoffensifs, oui. Heureusement, bien sûr. Alors, eh bien, la flore, durant cette période, s'épanouit. Vous avez des champs multicolores qui sont là, c'est assez extraordinaire. Et les arbres fleurissent. Alors, il y a un arbre qui est le symbole même du Venezuela, qui est un arbre national, que les ganaderos appellent le phare, parce qu'il a des fleurs jaunes et rouges qui scintillent. Mmh. Alors, on l'appelle le phare. Actuellement, la classe dirigeante du pays n'est plus agraire, n'est plus liée à la terre, comme elle le fut avec les gros haciendas, donc ces gens, les terratenientes, qui sont les gros propriétaires terriens. Eh bien, la classe dirigeante n'est plus là. La classe dirigeante, c'est les businessmen. Les businessmen, évidemment, ceux qui s'occupent du pétrole, ceux qui s'occupent de l'industrie, de l'industrialisation. Mmh. C'est cette classe qui a nationalisé, donc pratiquement, elle est constituée de gens qui ont fait leurs écoles dans les grandes universités américaines et qui ont fait aussi leurs écoles sur les marchés internationaux. Et bien, cette classe a nationalisé son pétrole en 1976 et elle a donné une idée parfaite de la démocratie. Donc, il y a une constitution à l'américaine qui régit le pays et le président du pays est élu tous les 5 ans. Il est remplacé. Suffrage universel, oui. Alors, vous avez, des efforts ont été accomplis. Bon, avec cette richesse, ces gens se sont souciés de l'évolution totale du pays.
Oui.
Ce sont des gens qui sont là, qui sont pratiquement les commis de l'État. Et ils se sont attelés à une tâche qui est très importante et les résultats sont là, malgré qu'il y ait donc quelques problèmes. Eh bien, depuis 25 ans, ils ont fait des efforts, notamment en matière donc, pour promouvoir la réforme agraire, parce qu'il fallait malgré tout garder et s'occuper de la terre qui est nourricière, cette terre, la réforme agraire, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'assistance sociale, qui n'existe pas dans les autres pays.
Dans les autres pays d'Amérique latine.
Oui. Très peu de pays d'Amérique latine ont une assistance sociale aussi développée. Dans les autres pays d'Amérique latine, c'est l'Église ou quelques organisations, mais ce n'est pas l'État. Oui. Alors c'est très important. Mais malgré tout, les grands oubliés du pétrole sont hélas les Indiens. Les Indiens de l'Orénoque, Amazon, donc la partie Amazonie, et les Indiens des Andes, de la cordillère des Andes.
Mais alors comment en vivent-ils ces Indiens-là?
Eh bien, les Indiens andins, donc ceux qui sont de la cordillère des Andes, qui vivent à la frontière de la Colombie ou à l'intérieur du pays, sur la presqu'île de La Guajira, la région qui est à 10 km de Maracaibo, c'est pas loin, eh bien, ceux-là se sont cantonnés dans le désert brûlant et aride avec des cactus, les cactus candélabres. Vous savez, ces cactus qui ont la forme d'un candélabre qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup de films mexicains.
Ah oui, c'est vrai.
Et des salines pour horizon. Ils n'ont que ça, le sel. C'est pratiquement. Ils sont relativement importants. Je dis relativement, ils constituent une population de 50 000 personnes à peu près. Et on les rencontre sur le marché de Maracaibo, vendant souvent des produits d'un artisanat ridicule, d'un faux artisanat, qui sont des hamacs qui sont de qualité moyenne, des sacs, des pompons, des décorations murales et des tapis à franges, dits des tapis de Montel, la Montel région. Pourquoi du faux artisanat? Parce que c'est du travail qui a été commandité par des commerçants, par des hommes d'affaires et tout. Et on leur dit, bon, au lieu de les laisser s'exprimer selon leur méthode traditionnelle, on dit, tiens, tu devrais faire ça comme ça et comme ça. On leur donnait des indications. Et puis, comme on a vu que c'était les Indiens, donc, comme ils ont vu que ceci était plus payant, alors ils ont continué à le faire. Et en reléguant donc leur expression traditionnelle, habituelle. Et c'est pour ça que c'est comme ça que commence une forme de dégénérescence. Mais c'est surtout aussi à Paragaipoa, qui est une ville assez importante aussi, pas loin, qu'on peut les voir vendre du bétail, des chèvres et moutons, contre des bricoles, enfin des petites babioles, des trucs qui ne leur servent pas grand-chose.
Pas grand-chose.
Non, ils achètent, qu'est-ce qu'ils achètent? Ils achètent du plastique.
On leur donne de l'argent,
mais ils vont tout de suite ils achètent des ustensiles de cuisine dont ils n'en ont vraiment pas besoin, des trucs en plastique, ou des casseroles. Eh bien, cette ethnie, qui est l'ethnie, puisqu'ils habitent la Guajira, on les appelle les Guajiros, on l'entend vécu en autarcie, ils ont vécu repliés sur eux-mêmes. C'était une autarcie hiérarchisée. Ils avaient pu maintenir jusque cette période, donc les 30 dernières années, si on veut, ils ont pu maintenir leur tradition. Aujourd'hui, eh bien, en dépit du port, des traditionnels pompons colorés. Vous savez, ces pompons colorés, chez eux, dans leur culte, ils symbolisaient des astres. Chaque pompon, et l'homme qui se recouvrait de pompons dans les maisons, donc ils sont disposés de telle façon, donc à l'intérieur de leur maison, qui donnait une idée d'une espèce voûte céleste. Et ce sont des astres flamboyants. Donc ce sont des astres qui illuminent la destinée des hommes. Et bon, à l'époque, ça avait une valeur symbolique. Maintenant, comme ils se vendent sur les marchés, on les fait de telle façon, même s'ils en portent, on a perdu petit à petit le symbolisme de tout ça. Alors, en dépit de tout ça, ils se mettent de plus en plus à ressembler à des résiduels de bidonvilles des grandes cités. Ils ont commencé par, avant d'arriver là, ils ont commencé par exploiter les perles, parce que la lagune de la Guajira, donc de Guajiro qui est sur la presqu'île, donc autour de la presqu'île, cette lagune, ainsi que l'île de Santa Margarita, sont de grands centres ostréicoles, des centres où on fait de la culture d'huîtres. Donc,
et pour les perles uniquement
ou uniquement pour les perles, uniquement pour les perles, parce que la région, avant bien sûr le pétrole, était une région perlière. On vendait des perles un peu partout. Et puis, après ça, ils se sont fait éleveurs en s'installant dans des rancherias. Des rancherias, ce sont des regroupements de 100, 150 personnes où il y a des, donc de 150 éleveurs. Alors, ils ont commencé par faire ça. Alors qu'ils ne l'étaient pas, ils n'ont jamais été éleveurs, ceux-là. Ils sont devenus par la force des choses. Et puis, par la suite, ils se mirent à exécuter des travaux, donc sur commande dont je vous ai parlé. Donc, voilà, avant de se clochardiser, et parfois aller grossir donc, le lot de tous ces résiduels des grandes cités. Des grandes cités, Caracas, Maracaibo. Donc, voilà. Pourtant, certains affirment que leur région, la région de la Guajira, et celle de la légendaire cité où, enfin de la légendaire zone où l'Eldorado accomplissait ses miracles, ce prince.
Donc, celui qui se peignait avec de l'or.
Il se couvrait d'or. Il se couvrait d'or. D'ailleurs, on parlera plus tard d'une ethnie de Colombie. On disait que cette ethnie avait pu, grâce à des herbes, trouver le principe pour ramollir l'or. L'or dur, donc l'or comme ça. Oui, et c'est comme ça que serait née la feuille d'or. Et lui se couvrait tous les jours d'or pour aller se laver tous les soirs. Et chaque matin, il se couvrait d'or. Alors, on dit que leur région, c'était la région de l'Eldorado, qui se trouvait donc sur le haut plateau donc, de la chaîne de Santa Marta, qui est à la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Mais c'est plutôt, donc, pratiquement, on pense, historiquement, c'est beaucoup plus au centre de la Colombie que l'Eldorado aurait réellement existé. On en parlera une autre fois lorsqu'on abordera ce pays. Alors, ce serait un des adjoints de Pizarro, qui s'appelait Sébastien de Belacasar, donc le nom est arabe déjà à l'origine. Il ne faut pas oublier que la conquête de l'Amérique latine s'est faite tout de suite après la Reconquista espagnole. Et je vous avais expliqué une fois que les gens de la Reconquista, la plupart des gens qui sont partis ailleurs, qui sont engagés dans les armées, ont été des gens qui ont été christianisés d'office. Même Cortés, le fameux Cortés, est d'origine islamique. Parce que il y a cette particule, d'ailleurs, on les distinguait pour ceux qui s'étaient convertis par la particule ES, le suffixe, donc qui s'ajoutait ES ou EZ. Et Cortés serait d'origine comme ça. Et bien, Belacasar aussi. Il semble. Bon, c'était un brun, enfin, d'après les descriptions. Il était brun très prononcé, donc, où il était là, mais il était andalou, d'origine andalouse. Eh bien, lui croyait fermement que c'était là la région de l'Eldorado. Et il y a envoyé une forte troupe près de Maracaibo, qui était dirigée par un certain Federman, je ne sais pas. Oui. Eh bien, cet Eldorado-là, bien sûr, ne fut jamais trouvé. Il ne fut jamais rencontré, mais les conquérants espagnols eurent quand même la possibilité de trouver des fortunes, parce qu'ils n'arrêtaient pas de ramasser des trésors et de les envoyer à la cour d'Espagne. Mais, et en plus, vous savez, parce que la région était très riche, ce qu'on envoyait à la cour d'Espagne ne représentait que le cinquième, selon la tradition.
Alors,
le roi gardait les quatre cinquièmes, donc partagés entre la troupe, c'est les gens qui le trouvaient. Un cinquième allait à la couronne d'Espagne. Alors, déjà, ceux qui arrivaient en Espagne faisaient l'admiration de l'Europe à ce moment-là. Qu'est-ce que ça pouvait être, le reste ?
En ce qui les concernait, oui.
Ah oui, c'était l'usage de l'époque et c'était assez fantastique. Néanmoins, quels qu'ils fussent, les Indiens de l'Eldorado sont apparus comme dotés d'une haute culture. Donc pour l'époque, tenez par exemple les statuettes en or qui sont arrivées. Benvenuto Cellini avait pu admirer une des statuettes, un poisson qui avait été offert au pape. Il était étonné de la perfection avec laquelle c'était exécuté. Il en parle. Même Dürer, le peintre à Anvers, il a vu une des pièces comme ça qui revenait. Il n'a pas pu résister, si vous voulez, au charme et à l'attrait de cette pièce. Il n'a pas arrêté de dire partout que c'était dû à de très, très grands orfèvres. Et il y avait une technique qui n'était pas du tout connue. Eh bien, ce sont ces gens, ces Indiens-là, que nous voyons actuellement, leurs ancêtres qui ont exécuté tout ça. Eh bien, tout ceci, donc ces gens, ont utilisé à l'époque déjà des procédés industriels et scientifiques très avancés, donc... Tout ceci, il ne reste plus rien de tout cela. Il ne reste plus rien. Pendant plusieurs siècles, les habitants, ces habitants de cet Eldorado fabuleux, ont excité toutes les envies et suscité tant de passions.
Mais Eldorado, enfin, actuellement, est encore synonyme de richesse?
Toujours. On parle d'ailleurs, en formule légère, c'est pas l'Eldorado, on peut parler d'Eldorado. Ou l'Eldorado ou le Pérou, parce que ça venait aussi, on a pensé, toute cette région, le Haut-Pérou, le Pérou, toute cette région était synonyme de richesse. Eh bien, par ailleurs, voici une vingtaine d'années à peu près, dans une revue scientifique connue, très connue, deux éminents savants, un Américain, Irving Ruse, qui était de l'université de Yale, dont on a parlé déjà, et un Vénézuélien, qui est José Crescent, qui était de l'Institut de recherche scientifique de Caracas, affirmaient que le datage de radiocarbone, donc le datage radiocarbone, donné pour des objets qu'ils avaient trouvés, qui avaient été trouvés au Venezuela, certains, même dans cette région, la région de La Guajira, eh bien, le radiodatage donnait des dates incroyables, assez aberrantes. Le temps le plus reculé, donc pour des objets fabriqués par des hommes, donc façonnés, transformés, modelés, donc par des êtres civilisés, puisqu'il y avait déjà une civilisation, est de 14 920 ans avant le christianisme. Donc ça nous donne à peu près 16 000, si on calcule bien, 16 900 ans. Vous vous rendez compte ?
Incroyable. 16 000,
c'est fantastique, c'est extraordinaire. Et la datation au radiocarbone est infaillible, il n'y a pas d'erreur possible. Et les auteurs affirment aussi que, par endroits, des objets que la radiodatation aussi signale comme vieux, il y a des objets là qui remontent dans l'âge, des objets qui ne sont peut-être pas tellement façonnés à travailler. Eh bien, ils disent que l'âge, parfois, remonte jusqu'à 30 000, 40 000, 50 000 ans. Vous vous rendez compte? Ça bouleverse toutes les données, toutes les données.
Façonnés par des hommes quand même.
Oui, non, utilisés par des hommes. Utilisés par des hommes. Eh bien, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Eh bien, ça fait reculer tout ce qu'on a supposé jusqu'à présent. Et notamment, l'arrivée de l'Homo sapiens. L'Homo sapiens sapiens n'existe que depuis 35 000 ans.
Oui.
Bon, mais le sapiens, l'Homo sapiens, c'est juste avant. Eh bien, ça fait reculer tout ça. Fait reculer toutes ces données. Et comme disait...
Il faut toujours tout remettre en question.
Il faut. Et justement, on ne remet pas en question n'importe quoi. Je vous dirais en latin, sapiens nihil affirmat quod non probant, c'est-à-dire que le sage n'affirme pas ce qui ne le prouve pas, n'annonce pas. Eh bien, justement, avec cette datation du radiocarbone, c'est extraordinaire. Eh bien, ça nous permet de ne rien affirmer quant à notre passé, le passé de l'humanité. Les Indiens d'Amazonie, les Guaharibos, que j'ai connus personnellement, les Guaharibos, les Yaromamis, eux, sont loin de la capitale. Eux, ils sont loin des autorités gouvernementales. Mais ils vivent, ces derniers, donc tous ces gens vivent dans cette partie Amazon, donc qui est au sud du pays, aux sources de l'Orénoque, dans une zone proche du Brésil. Ils sont loin de la capitale, donc on ne se soucie pas d'eux. Alors, bien sûr, les autorités essaient de les protéger. Ils ont essayé. Il est difficile d'obtenir l'autorisation de les visiter. Ça va même jusqu'à, si on attrape quelqu'un qui n'a pas d'autorisation, il peut même être emprisonné.
Mais pourquoi ?
Eh bien, pour éviter justement qu'il y ait cette pollution de la civilisation. Eh bien, malgré toutes les protections, certaines tribus, telles les Marekodoteri, connaissent déjà les méfaits de la civilisation. Ils portent des vêtements à l'européenne, donc des shorts, alors qu'avant, ils allaient pratiquement tout nus. Ils ont des moteurs aux pirogues, alors qu'ils n'en font plus d'efforts. Ils sont atteints de paludisme, ils sont soignés dans des missions catholiques, des missions chrétiennes aussi. Leurs enfants sont scolarisés. Et bien tout ceci bouleverse justement leur système écologique. Les Yaromamis, comme beaucoup de leurs semblables, eux, vivent de pêche. Ils vivent de pêche. La pêche, ils n'ont pas d'hameçon, rien. À l'arc. à l'arc en saison sèche, c'est-à-dire la période entre janvier et mars, et de chasse ou de cueillette. Mais petit à petit, ils commencent pratiquement à rejoindre les cités, surtout celles d'Esmeralda au sud, et viennent grossir le nombre des citadins du Venezuela. 75% de la population du Venezuela est urbaine, urbanisée, elle vit en cité.
Alors, il y a peu de monde en,
ah oui, peu de monde
à l'extérieur.
Tout le monde est autour des villes, c'est les villes de la richesse, c'est là que tout se passe. Et depuis, d'ailleurs, le Venezuela a définitivement basculé dans l'ère de l'industrialisation et de l'urbanisation. Tout est là, tout est autour des cités. Tout se fait dans les cités. Le pays connaît d'ailleurs depuis peu, comme beaucoup de pays producteurs de pétrole, la récession. Il y a l'après-pétrole, c'est maintenant qu'on accuse le coup. Alors il y a des mesures d'austérité qui sont prises, et surtout à l'encontre des Indiens qui viennent en tant que travailleurs clandestins, immigrants clandestins. Avant, on ne regardait pas trop, maintenant on regarde un peu. Ça fait trop de monde, oui, parce qu'on essaie de protéger un peu le travail. Déjà qu'il y a beaucoup de chômage, on essaie de protéger. C'est ce que connaissent à peu près beaucoup de démocraties, notamment les démocraties occidentales. Le Venezuela a d'autres ressources, ne serait-ce que les ressources, les beautés innombrables de ces vallées, les bourgades qui ont un peu ce côté du passé, ce charme du passé, les criques, le tourisme. Eh bien, tout ceci donne au Venezuela beaucoup d'espoir. Et c'est un pays qui gagne à être connu.
Eh bien, quelle diversité, quel beau voyage avons-nous fait ce soir. Merci Kadriaga et
merci.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oye, todo el puntería, hombre, si te pongo.